C'est bon, le chant qu'on vient de chanter, est-ce qu'il résonne encore en vous? J'ai une question à vous poser au début de mon message. Es-tu l'ami de Jésus? C'est la question que j'aimerais qu'on puisse se poser, à laquelle on puisse réfléchir ce matin. En revenant aussi un petit peu sur le message de dimanche passé de Reed, et puis en allant plus loin dans le texte. Dimanche passé, Ritz nous a parlé du cep, exactement, des sarments, du vigneron. Ces sarments qui ont une mission, la mission de porter du fruit. Et il a bien dit, ceux qui ne portent pas de fruit, il les enlève parce qu'ils sont inutiles, parce qu'ils prennent de la... Parce qu'ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Parce qu'ils prennent de la sève dont auraient besoin ceux qui portent du fruit. Et en réfléchissant à ça, j'ai compris un verset qui me heurtait toujours, qui me posait problème, un verset de Matthieu, Matthieu 13, 12, où il est dit, « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » J'avais toujours de la peine avec ce texte. Je me disais, « Mais je ne comprends pas. » ce que ça veut vraiment dire. Et là, tout à coup, j'ai réalisé, mais dans le contexte du cep et des sarments, ce texte, il prend toute une autre dimension pour moi. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Jésus veut un peuple, il veut une église, des hommes, des femmes qui portent du fruit. Et il leur donne tout ce dont ils ont besoin pour porter du fruit. Il nous équipe. Il équipe son Église. Et Ritza nous a rappelé aussi que les sarments qui portent du fruit, il les taille. Jésus les taille. Le Père les taille. Pour qu'ils portent encore plus de fruits. Il nous a été parlé aussi de demeurer en Christ, de demeurer en lui. Et c'est répété plusieurs fois dans cette première partie de Jean 15, avec une sorte de crescendo. C'est vrai, on l'a vu, il est question de porter du fruit. Et pour que nous portions du fruit, Jésus dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ensuite, au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et on va revenir ce matin sur ce lien entre demeurer en Christ et obtenir ce qu'on lui demande. On va y revenir tout à l'heure. Parce qu'on va le voir dans tout ce texte, Jésus, il insiste sur ces deux notions, demeurer d'un côté et obtenir. Demeurer en lui et obtenir ce qu'on lui demande. Et ces deux mots qui sont intimement liés, on ne peut pas les séparer. On va lire donc la suite de Jean 15. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On voit au verset 9 cet amour du Père qui est un amour parfait, qui est l'exemple parfait pour nous. Comme mon Père m'a aimé. C'est l'exemple de base. Comme mon Père m'a aimé, c'est ce que Jésus nous dit. Demeurez dans mon amour. Mais comment est-ce que je vais demeurer dans cet amour? Comment y vivre tout le temps? Est-ce que c'est possible? On s'imagine, on est dans ses bras, on y reste. On est tellement bien que tout le reste, on l'oublie. On aimerait bien, mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus attend de nous. Rappelez-vous le début de Jean 15. Nous sommes les sarments. Ces branches qui sont exposées aux intempéries, aux insectes, à tous ces ravageurs qui peuvent être par là. Mais on est toujours attaché au cep. Comme mon Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé. En quittant la gloire du ciel pour venir nous rejoindre dans notre humanité, Jésus s'est fait sarment. Il a été taillé de toutes parts. Si on revient au baptême de Jésus dans Matthieu 3, 17, il est dit, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » On se dit, mais après ça, le ministère de Jésus, il doit démarrer sur les chapeaux de roue. Et pourtant, il va passer 40 jours dans le désert, il va être tenté, il va être taillé de toutes parts. Comme le Père m'a aimé. Comme le Père m'a aimé. Et plus tard, lors de la transfiguration, Matthieu 17, 5, c'est quasiment le même verset. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Et cet épisode-là, il précède la montée de Jésus à Jérusalem, où il va mourir sur une croix. Et je m'imagine taillé à un tel point qu'on ne voit plus le sarment. Il n'en reste rien. Il est coupé à fleur du cep. Comme le Père m'a aimé. Mais n'oublions pas, Christ est mort sur la croix, il est ressuscité. Le sarment, il n'a pas été arraché. Il a été taillé. Il a été coupé. Et les fruits que Jésus a portés 3 jours plus tard, il a vaincu la mort, il nous a ouvert le chemin au Père, il nous a libérés. C'est ce fruit-là. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est ce que Jésus dit, moi aussi je vous ai aimé. Son amour est là pour nous, également quand il nous taille. Au verset 10, il nous est parlé de demeurer dans son amour. Mais il est aussi parlé de commandement. Est-ce que c'est compatible? Amour, commandement? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset 10. Dans notre compréhension du monde aujourd'hui, c'est plutôt impossible. C'est incompatible. Je me rappelle quand on était à l'école de recrue, on avait un commandant qui nous donnait parfois des ordres qu'on n'aimait vraiment pas. Il aimait bien aussi nous pousser à bout. Alors la troupe, on avait essayé de trouver un petit peu des solutions pour que finalement ces ordres, on ne puisse pas les réaliser. Qu'on ne puisse pas les exécuter parce qu'il y a un truc qui ne jouait pas ou l'autre. On se donnait beaucoup de peine pour ça, mais finalement, on devait quand même le faire. Et franchement, à ce moment-là, la motivation, l'amour, la dose d'amour, elle était à zéro. Il n'y a vraiment pas d'amour là-dedans. Quand on pense un petit peu plus actuel, la réforme des retraites en France, est-ce qu'il y a beaucoup d'amour dans la réponse du peuple? Même la réforme salariale à l'aéroport de Genève, il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a plein de situations où on voit qu'il y a incompatibilité entre les deux. Et je crois qu'on doit Si on veut être vrai dans notre réflexion, on doit réaliser et on doit admettre que face à ce qui nous est commandé, on a une tendance naturelle à mettre les pieds au mur. Et au regard de cette réalité, le verset suivant, le verset 11, il est vraiment surprenant. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ce que Jésus nous propose là n'a manifestement rien à voir avec notre compréhension de ce commandement, de cet amour, de ce lien entre les deux. Notre compréhension de syndicaliste révolté quelque part, ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est quoi cette recette miracle qui va nous remplir d'une joie complète? Parce que quelque part, c'est ce que le monde recherche aujourd'hui, il le recherche autour de nous, on le voit, on le recherche nous-mêmes. Et le verset 12, le commandement de Jésus, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aïe. Aimez-vous les uns les autres. Alors on va dire, ouais, bon, l'amour, ça ne se commande pas. Pourtant, c'est là un commandement que Jésus nous donne. L'amour dont il est fait mention là, il est précis. Il y a ces fameux mots qui veulent dire beaucoup de choses en français. Le mot agapé. Ce n'est pas un amour amical, gentillet, basé sur les sentiments. C'est un amour qui est gratuit pour celui qui le reçoit, mais qui coûte pour celui qui le donne. La mesure de cet amour, c'est d'aimer comme Jésus a aimé. Ce n'est pas une espèce de concept qu'on essaie de s'imaginer, puis auquel on essaie de réfléchir ensemble. Non, mais c'est un amour qui nous pousse à l'action, à la générosité, au don de soi, pour les autres, pour nos frères et sœurs. Alors on s'est dit, ouais, ok, mais la limite, elle est où? À quel moment est-ce que je pourrais dire, c'est bon, là, j'ai assez donné, je peux freiner un peu? Puis Jésus est très clair dans ce qu'il dit. Il y a un plafond, il y a une limite, c'est rassurant, n'est-ce pas? Et quand on atteint cette limite-là, on peut s'arrêter. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, que de donner votre vie pour vos amis. Oui, l'amour peut aller jusque-là, donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Et on se le rappellera tout à l'heure en prenant la Sainte Cène. Par sa mort, il nous a sauvés tous. C'est son geste d'amour ultime. Il n'y a que lui qui pouvait faire ce geste-là. Il a donné sa vie pour ses amis, pour tous ses amis. Alors je nous pose cette question, suis-je l'ami de Jésus? Au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et je vous relis le verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Suis-je l'ami de Jésus? Es-tu l'ami de Jésus? Je crois que c'est important qu'on soit au clair de savoir pour chacun d'entre nous où c'est qu'on en est dans notre relation avec Jésus. Parce que tout ce qui est mentionné dans la suite du texte qu'on va développer, je pourrais le vivre que proportionnellement à l'intensité de ma relation avec Christ. On va lire le verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il y a une différence d'attitude entre une attitude de serviteur et une attitude d'ami. Un petit exemple personnel. Je reçois de temps en temps un message ou un appel de Bertrand et Elodie. Puis dans ce petit message, c'est « Vous passez un petit coup ?» Alors, j'ai tellement envie d'aller chez eux que je ferai tout pour dégager un petit moment et puis qu'on puisse y aller, qu'on puisse prendre du temps pour les voir. Une fois qu'on est arrivé chez eux, on va s'asseoir autour de la table, on va discuter, on va partager, on va boire le café ensemble, on va prier ensemble. Et je vais repartir de là fortifié, encouragé, plein de reconnaissance pour ces amis qui sont là. Mais ça pourrait se passer tout autrement, en recevant le même appel. Puis je me dis à ce moment-là, mais oh non, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Et là, j'arrive chez Bertrand et j'attends qu'il me dise ce qui ne va pas, ce que j'ai fait faux, qu'est-ce qu'il attend de moi. Puis il me dit, mais prends place. Oups, ça veut dire que c'est sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il me propose à boire. Alors là, je me dis déjà, bon, il m'offre à boire, l'erreur ne doit pas être trop grave. On commence à discuter, mais dans ma pensée, il y a toujours cette question, mais quand est-ce qu'il va me dire ce que j'ai fait de faux? Et finalement, quand je vais repartir de chez eux, je me dis, mais qu'est-ce qu'il voulait de moi finalement? Et je rentre frustré, j'ai l'impression d'un inachevé, d'avoir raté quelque chose. Est-ce qu'on ne vit pas des fois ça dans notre relation avec Jésus? On a l'impression que là, il va devoir me dire quelque chose parce que mon attitude, je sais qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie, qui n'a pas joué. Et puis qu'est-ce qu'il va encore me dire? Puis qu'est-ce que je n'ai même pas réalisé que j'ai fait faux quand on va dans sa présence? Est-ce qu'on va dans sa présence en tant que serviteur ou en tant qu'ami? Jésus, dans ce verset 15, est en train de nous expliquer que selon comment je réponds à son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, selon comme j'y réponds, je serai serviteur ou je serai ami de Jésus. Si j'ai une relation de serviteur à maître, je ne saurai pas grand-chose des projets de mon maître. Mais si je reçois cette invitation à être l'ami de Jésus, si j'y réponds, je pourrai vivre ces moments d'intimité avec lui, ces moments au travers duquel il me révélera ses projets, les projets du Père, pour moi, pour ma vie, peut-être pour d'autres autour de moi. Et on arrive au verset 16. Il y a une condition pour expérimenter ce qui s'y trouve, et ce qui s'y trouve est vraiment riche. Et tout ce que je viens de dire, c'est la condition. Si je ne suis pas ami de Jésus, ce verset 16, il est inatteignable. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. N'oublions pas qu'on n'a aucun mérite. C'est Jésus qui m'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui a choisi de venir sur cette terre, donner sa vie, pour qu'au travers de lui, j'ai accès au Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Établir, c'est fixer de manière stable, définitive. Il y a quelque chose de vraiment concret, dans un lieu défini. Et ce n'est pas la personne qui s'établit elle-même. Elle ne décide pas non plus de l'endroit où elle va s'établir, où elle va se placer. Quelqu'un qui est établi obtient des droits pour qu'il puisse mener à bien sa mission, mais aussi des responsabilités face à la personne qui l'établit, des comptes à lui rendre. Jésus nous redit encore une fois au travers de ce texte, c'est moi qui t'ai choisi, qui ai tout fait pour que tu sois mon ami. Et c'est aussi moi qui t'établis pour une mission bien précise, pour que tu portes du fruit, mais du bon fruit. Le sécateur, hein? On revient au sécateur. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore du fruit. Je recommence le message, puis c'est une sorte de message sans fin aujourd'hui un peu. On peut recommencer au début. Parce que c'est ça, tout est imbriqué. Et le verset 16 se termine avec la phrase suivante. « Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et c'est le genre de verset sur lequel on aime bien s'appuyer pour justifier notre réclamation quand Jésus ne répond pas, quand le Seigneur ne répond pas à nos prières. Pourtant, tu dis. Et je réalise que personnellement, je m'appuie plus sur cette phrase-là dans mes prières que sur le verset 14 qui dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. » C'est plus simple de se dire simplement « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je vais peut-être un petit peu caricaturer dans ce que je vais dire, mais dans chaque caricature, il y a une part de vrai, il paraît. Ma prière n'a pas été exaucée parce que, à la fin de ma prière, je n'ai pas dit au nom de Jésus. Parce que, voilà, il faut le dire que je prie au nom de Jésus. Elle n'a toujours pas été répondue parce que je n'ai peut-être pas dit au nom puissant de Jésus. Et puis on peut en rajouter encore plein d'autres mots pour bien appuyer notre prière. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Et là, j'ai besoin de toi, Marianne, pour la suite, pour un autre exemple. Dans l'entreprise où je travaille, on a un magasin d'électroménager, hein, vous le savez plus ou moins tous. Et quelqu'un, à un moment donné, entre dans le magasin.
Bonjour, monsieur. Il me faudrait un nouveau four.
Mais bien évidemment, madame. C'est par ici. Voilà les modèles que je peux vous proposer.
Eh bien, celui-ci m'ira très bien. Il a toutes les options.
Très bien. J'ai besoin de vos coordonnées pour passer la commande.
Ah, mais la facture sera pour le propriétaire.
Ok. Il est au courant?
Non, mais c'est au propriétaire de payer ce genre de travaux. C'est écrit dans le contrat location.
Alors, désolé. Pour nous, ce qui compte, c'est l'accord du propriétaire. C'est lui qui décide. C'est lui. Pour nous, c'est lui qui est la personne de référence. Il y a le deuxième exemple. C'est la même personne avec le même problème qui vient dans le magasin.
Bonjour, il me faudra un nouveau four. Je viens au nom de Monsieur Oberly.
Bonjour. Vous êtes Madame Augsburger, je suppose.
Oui, bien sûr.
Il m'a informé de votre passage. Venez, je vous présente ce que je peux vous proposer et qui correspond aux critères de votre propriétaire.
Ah, cool. Je prends ce modèle-là.
Très bien, madame. Je le commande et on vous le livre des réceptions.
Merci.
Dans les deux cas, c'est la même cliente, c'est le même vendeur, c'est le même propriétaire. Et pourtant, c'est le même fou. Pas forcément, parce qu'il a peut-être choisi la première fois vraiment le haut de gamme. Mais, voilà. Et pourtant, le résultat, il est totalement opposé. Et ce qui fait cette différence, c'est que dans la deuxième situation, la locataire a été mandatée par le propriétaire. Est-ce que mes demandes sont toujours avec certitude dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis assez ami de Jésus pour connaître sa volonté et pour lui faire confiance? Y faire confiance que sa réponse sera la bonne. Toujours la bonne. Dans Jean 11, verset 42, Jésus a prononcé ces paroles que je vais vous lire face au corps de Lazare qui était mort depuis 4 jours. « Pour moi, il dit, Jésus en parlant à son père, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus demeurait dans l'amour de son père. Il a gardé les commandements de son père et il a été établi par son père. Il s'est engagé et il a porté du fruit. Il connaissait parfaitement la volonté du Père. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous avez remarqué, là, je viens d'oublier un mot. Pas tout. Non. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom. Ce alors, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de partager. C'est la conséquence de notre relation avec lui. Est-ce que je suis l'ami de Jésus? Est-ce qu'il me révèle ses projets? Et s'il me mandate, je vais pouvoir y aller en son nom. Dans ce que lui me révèle. Pas dans mes petites envies, dans mes projets à moi. Dans ce que lui me révèle. Jésus veut que nous connaissions vraiment sa volonté, la volonté de Dieu. Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec lui? Et c'est cette question-là que je me pose ce matin, que j'aimerais qu'on puisse tous se poser. Comment est-ce que je vis ma relation avec Jésus? En ami, en serviteur, en servante? Ou même, est-ce que je vis une relation avec Jésus? Jean, lui, il a été totalement bouleversé par cet enseignement. On le voit dans tout son évangile, ça revient toujours. Cette notion de nous aimer les uns les autres, de l'amour du Père, tout le temps. Et dans ses épîtres, les lettres de Jean, et notamment dans 1 Jean, ça revient tout le temps aussi. Et pourtant, cet épître, il l'a écrit plus de 50 ans après avoir vécu ça avec Jésus. Mais c'est resté gravé en lui. Ce matin, pour terminer ce message, Marianne, tu vas peut-être pouvoir reprendre un petit peu le son du dernier chant. Jésus, je pense qu'il dira même pas mal. J'aimerais simplement qu'on puisse s'arrêter, se mettre à son écoute, et aussi peut-être lui dire ce qu'on a à lui dire ce matin. Remettre les pendules à l'heure peut-être dans notre vie. Et moi, je vais simplement vous lire quelques versets de 1 Jean 4 qui vont dans le même sens au fur et à mesure. Que vous puissiez les recevoir et recevoir ce que Jésus veut vous dire au travers de ces textes. Dans 1 Jean 4, 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. le verset 16. Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et le verset 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Seigneur, ce matin, je réalise, Seigneur, combien j'ai besoin de toi encore. Combien j'ai besoin, Jésus, de cette relation avec toi. Combien j'ai besoin de cette intimité avec toi. Pour pouvoir entrer dans le mandat que tu veux me confier. Combien nous avons tous besoin, Seigneur, de cette intimité toujours plus forte avec toi. Pour être équipé, pour être envoyé, pour savoir pourquoi on est envoyé, pour pouvoir te faire confiance pleinement dans ce que tu nous confies aussi. Merci Jésus parce que tu nous as envoyé ton Saint-Esprit, parce qu'il est là en nous, il est là au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu te révèles et tu nous révèles le Père ce matin au travers de Jésus. Merci parce que tu veux nous révéler cet amour du Père. Je te prie de venir toucher chacun de nos cœurs, de venir Seigneur encore nous changer, nous transformer, nous remplir de cette soif de ta présence à chaque instant. Que nous puissions grandir avec toi, que nous puissions Seigneur entrer pleinement dans ce mandat que tu veux nous confier. Non pas comme des serviteurs, mais comme des amis. Seigneur, quelle grâce. Tu as tout accompli pour nous. Pourquoi est-ce qu'on passerait à côté? Non, Seigneur, on veut entrer dans tes projets et on veut les vivre. Parce que tu nous les as donnés. Ils sont là devant nous. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu agis ce matin. Et merci pour ce que tu graves dans nos vies. Amen.